Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans UJT Foot. Hier, les Violets se sont inclinés à Nantes sur le score de 2-1. Avec cette nouvelle défaite, le TFC est désormais lanterne rouge et s'enfonce dans la crise. Nous reviendrons comme chaque semaine avec nos rédacteurs sur la rencontre avant de nous projeter sur le prochain match mercredi avec la réception de Monaco. Ils décerneront les traditionnelles récompenses aux joueurs du TFC, le magret, la saucisse et la violette. Victor animera la nouvelle chronique de JT Foot en reprenant les trois meilleures déclarations du monde du foot de la semaine dernière. Puis nous terminerons avec un quiz préparé avec amour et passion par Arnaud. Allez, trêve de salam alek, JT Foot, c'est parti. Avec moi en plateau pour décrypter cette nouvelle grande performance du TFC, Nicolas, Julien et Simon. Ça va les gars ?
Ça va bien, merci.
Salut, ça va.
Bon, en tout cas, merci. Ravi de voir que le moral reste malgré la dernière place des Violets. C'est important d'avoir un mental solide à UJT Foot. Hein.
C'est pas facile. Ah là, il en faut. Hein, en ce moment, là, c'est pas facile du tout. Là.
Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le TF Actu préparé par Thomas.
Alors la stat qui va suivre est sidérante, accrochez-vous bien. Selon Optagent, Antoine Comboiré a perdu, je cite, 24 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. Soit plus que tout autre entraîneur. Avec Toulouse, il affiche un ratio de 0,5 points pris par match, soit le pire ratio pour un entraîneur dans l'histoire du club.
Et c'est quoi le bilan de Comboiré avec sa dernière équipe, Thomas ?
Alors avec Dijon, le Canac a dirigé 25 rencontres. Son bilan, du coup, c'est 8 victoires, 4 nuls, 13 défaites, soit 28 points glanés sur 75 possibles. Un petit ratio de 0,37 points pris par match.
Et avec Guingamp, ça donne quoi ?
Avec Guingamp, l'homme à la casquette a dirigé 87 rencontres, 27 victoires, 23 nuls et 41 défaites.
Oh là là.
Soit un petit ratio de 0,39 points pris par match.
Solide.
Voilà, sinon on va enchaîner du coup avec les résultats du week-end. Alors pour la réserve, bah comme les pros, la réserve a chuté ce week-end. Elle s'est inclinée sur la pelouse d'Alès 1-0. Avec déjà 4 défaites en 11 matchs, les Pitchouns pointent à la 7ème place du groupe H en National 3. Pour les 19, heureusement, eux, ils sont là pour sauver l'honneur. Donc ils sont les vainqueurs de l'US Coulommiers, donc 2-3. Ils enchaînent un troisième match sans défaite. Deuxième du classement, les U17 enchaînent un deuxième succès consécutif en battant à domicile le Muret 2-0. Et enfin, les féminines, elles n'ont pas joué parce que malheureusement, leur match contre Bergerac-Périgord a été reporté suite aux intempéries.
Merci Thomas pour ce tour d'actu du TFC. On va enchaîner avec l'analyse du match. Hier après-midi, le TFC a connu un nouveau revers à la Beaujoire. Les Violets se sont inclinés sur le score de 2-1 après avoir subi une nouvelle expulsion en première mi-temps. Manu Koné a reçu un deuxième carton jaune sévère par Monsieur Bata à la 23e minute, laissant ses partenaires à 10. Les Canaris ont ouvert le score en fin de première mi-temps sur un pénalty de Touré après une main dans la surface d'Ishiaga Silla. Ils ont ensuite doublé la mise sur une réalisation de Blas validée par la Goal Line Technology. Les Violets auraient même pu encaisser un troisième but en fin de rencontre par Koulibaly, finalement annulé par la VAR pour une position de hors-jeu. Les Violets réduiront la marque dans le bout des arrêts de jeu sur un pénalty transformé par Aaron Leia-Iseka, mais le mal est fait et le TFC est officiellement lanterne rouge de la Ligue 1 Conforama. Le TFC possède 12 points après 15 journées et est désormais derrière le Nîmes Olympique au goal average. Une position extrêmement inquiétante, surtout que les Toulousains sont pire défense du championnat et comptent 5 défaites consécutives. Les gars, on en pense quoi du carton de Koné ? Il est sévère ou pas ?
Pour moi, ouais. Hein. Pour moi, il est assez sévère. Alors peut-être que ça va faire débat autour du plateau.
On est d'accord pour dire qu'il est quand même un petit peu sévère. Ouais. Le premier jaune, je pense qu'il y est.
Totalement.
Le deuxième jaune, très très sévère quand même.
Je suis d'accord. Il est sévère, mais je trouve qu'il n'est pas totalement immérité. Tu as déjà pris un carton jaune. Tu mets beaucoup d'impact, surtout que là, sur ce coup-là, il fait la faute alors qu'il est dans la moitié de terrain nantaise. Donc il est loin,
il met le pied sur le ballon aussi. Les deux arrivent,
il touche le ballon.
C'est 50-50
le ballon
quand même.
Sauf que bien sûr,
il met de l'engagement. On peut pas lui reprocher ça. C'est un jeune joueur et je pense que Comboiré lui a demandé. Hein, c'est,
bien sûr, il y a 18 ans, on va lui dire qu'il va apprendre, bien sûr. Mais le souci c'est que quand tu fais une faute comme ça où tu mets tu touches, tu mets une semelle comme ça, même si tu touches le ballon en premier, tu mets la semelle derrière. Si c'était sa première faute, par exemple, je pense qu'il aurait pris jaune.
Mais là, c'est hors de jeunesse, peut-être. Et il prend le risque de mettre une semelle. Voilà.
Après, c'est un contact qu'on retrouve aussi souvent dans le sport, hein, genou contre genou. Ça fait très mal. Et puis, après, ce qui m'embête, moi, c'est que. C'est un peu à celui qui va crier le plus fort qui va avoir la faute, quoi.
L'arbitre a manqué de discernement quand même. C'est tôt dans le match.
De pédagogie peut-être un peu.
Ouais, je pense.
Bah, bien sûr.
Totalement. Moi, je pense que c'est assez immérité. Et après, ça plombe le reste du match, quoi.
En tout cas, Comboiré semble assez d'accord avec vous sur la sévérité du carton. Hier, après le match, il a réagi au micro de beIN Sport. On vous laisse l'écouter.
Scénario très compliqué, mais je tiens à féliciter mes joueurs. J'ai aimé le comportement, l'attitude, mais c'était très difficile de jouer contre 11 Nantais et puis un deuxième supporter avec les Nantais, l'arbitre. Moi, je suis très en colère aujourd'hui. Maintenant, c'est comme ça. On va préparer le match de Monaco mercredi, mais voilà, on a fait quand même un grand match.
Vous pensez qu'il a raison, Comboiré, de se focaliser sur cette expulsion de Koné? C'est vraiment ça qui change tout le match? Ou est-ce que le TEF aurait, quoi qu'il arrive, manqué de ressources pour aller chercher Nantes? Les Violets, ils ont vraiment fait un gros match, comme il le dit?
Moi, je trouve ces déclarations quand même assez ahurissantes. J'ai l'impression que Comboiré, là, il se cache un peu derrière l'arbitrage. Ok, le carton rouge, ça peut changer un match, mais derrière, franchement, là, il y avait vraiment rien, quoi, sur ce match. Toulouse, ils n'ont pas été bons. Même, je ne sais pas si Koné était resté sur le terrain, si le match... je pense que ça aurait été la même chose. Toulouse se serait incliné. Moi, j'ai trouvé, défensivement, c'est encore fébrile, alors que chaque fois en conférence de presse, il veut mettre l'accent sur la défense, le combat, mais sur le terrain, il n'y a rien. Quand Toulouse a le ballon, ils le perdent directement. Là, il y a eu 37% de possession, c'est ridicule. C'est Nantes en face, quand même. C'est pas non plus... en ce moment, ils sont pas exceptionnels. Toulouse a le don, on les connaît, de relancer les clubs en difficulté. Encore une fois, ils le font.
Mais Nantes n'avait pas gagné depuis début octobre.
C'est quand même la 37% de possession de balles, c'est très peu. Ils ont fait 300
défaites et un nul sur les 5 dernières rencontres nantaises.
Voilà, donc...
Mais on reste d'accord que c'est quand même beaucoup plus compliqué de défendre ou d'avoir la possession à 10 contre 11.
Ouais, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, dans un autre match, on a vu Reims contre Bordeaux jouer à... Ok, peut-être ils ont joué moins longtemps à 10 contre 11, mais les mecs ils se sont battus sur le terrain, ils ont joué au ballon, ils se sont procuré des occasions, ils ont été meilleurs limite à 10 contre 11 que Bordeaux, donc là forcément c'est...
Moi après j'ai trouvé que le début de match n'était pas si catastrophique que ça. Pour une fois j'ai trouvé que Comboiré avait mis en place une tactique qui était plutôt intéressante, très défensive.
Et il n'a pas de tactique.
Je sais, au niveau du plan de jeu,
il
ne
trouve pas son équipe
l'avant,
en fait. Chaque week-end l'équipe est différente.
C'est vrai, mais encore une composition différente cette fois-ci.
Et oui, on sait qu'il a
un schéma différent.
Comboiré, ouais. Il adore le 4-4-2, voilà, c'est son schéma favori. Et là il a choisi le 4-3-3. Bon, ça n'a toujours pas fonctionné. On peut dire ce qu'on veut sur l'expulsion. Après voilà, il se cache aussi but goal line, il dit but goal line c'est but, hein, je suis désolé.
Pareil pour le penalty, ne pas reprocher la main, on fait toujours les règles au niveau des mains, mais
il y a clairement main. Il dit penalty contestable, bon c'est pas du tout contestable, il y a penalty 100 fois.
Tu peux reprocher peut-être le manque de discernement de l'arbitre au niveau du deuxième carton jaune, mais sur les deux faits de jeu qui sont penalty et ensuite la goal line qui prouve qu'il y a but, là non. Tu n'as rien à dire
et se cacher
derrière les décisions arbitrales, je pense que
c'est moyen
un petit peu abusé.
Ouais.
Moi je pense que ça change quand même un peu le match en soi, parce que j'ai vu au début du match une équipe qui était quand même organisée au niveau défensif, parce que offensif c'était une catastrophe, il y avait rien du tout. Dès que ça lançait un ballon sur Wesley Saïd, il le perdait directement. Et alors que défensivement, je trouvais que ça reculait bien avec cette ligne de 4, plus Sangaré qui était là pour assurer si les lignes étaient percées. On avait Manu Koné qui montait quand même assez bien au pressing. Et là, de se prendre un carton rouge à ce moment-là du match, je pense que ça met un gros coup sur le moral. On le voit les quelques minutes après. Il y a une grosse pression nantaise. T'as Ludovic Blas qui fait une très belle prestation sur le reste du match. Et je suis vraiment convaincu que c'est vrai que au niveau de la victoire, ça aurait été impensable. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que le match nul aurait peut-être été envisageable s'ils avaient joué à 11 contre 11. Après, qui sait, peut-être que le regain de motivation, parce que t'as pris un rouge et qui n'était pas forcément mérité, ça t'a peut-être aidé à mieux jouer, mais voilà.
Et peut-être avec un petit peu plus de réussite aussi, quand tu penses
ils n'ont vraiment pas de réussite.
C'est ça, au coup franc qui finit sur la barre.
En plus de ne pas être bon, ils n'ont pas de réussite. C'est-à-dire que tous les matchs contre Rennes, contre Lyon, ils prennent des buts à la fin. c'est un enchaînement, voilà, de, c'est des coups du sort en fait qui s'abattent contre eux et c'est ce qui fait qu'ils sont 20e aujourd'hui.
Ouais, après, c'est aussi dû au manque d'occasion, quoi. Voilà. Plus t'as d'occasion, plus t'as chance
exactement,
de marquer.
C'est
et là,
c'est
si t'en as 5 dans le match, bon, bien bah forcément.
Et Koulouris passe des soirées un peu solitaires.
La chance, ça se provoque aussi, voilà. Là, ils n'ont pas de chance, c'est qu'ils provoquent rien du tout.
C'est vrai que Koulouris était très très seul au début du match. Il a fait quoi, 2 remises en 25 minutes. Et après, c'est vrai que c'était un peu dur d'animer cette attaque.
Très difficile, et même pour Gradel. On le voit, hein, Gradel qui est très en dessous de son niveau habituel, franchement, il m'a déçu. Après, est-ce qu'il peut jouer dans cette équipe? On l'a vu vraiment très déçu en sortant sur le banc de touche. On a l'impression que Max Alain, il est dépité, quoi. Il sait plus quoi faire.
Ouais, quand les seuls ballons que tu reçois, c'est excentré sur le côté droit et que tu as 3 mecs qui sont déjà sur toi, je pense que.
C'est un mec qui a énormément de talent. Pas, ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois il sauve le TFC. C'est le seul joueur qui ressort sur le terrain. Là, on voit qu'il est moins bon en ce moment et forcément, ça empêche sur toute l'équipe de Toulouse, donc on peut pas se reposer que sur un joueur comme Max Alain.
C'est un peu lui qui faisait la pluie et le beau temps l'année dernière, Max Alain.
Complètement.
En tout cas, on espère que les violets ne vont pas adopter la fâcheuse attitude de prendre un rouge à chaque match, parce que sinon la saison va vraiment être très compliquée. On enchaîne sans plus attendre avec les traditionnelles récompenses, le magret, la violette et la saucisse.
Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
Et on commence avec le magret, le joueur toulousain qui a régalé. Julien, c'était qui le meilleur violet pour toi?
Bah écoute, on va pas changer d'habitude. Je pense que c'est Baptiste René. Si sans lui, c'est pas très original, mais je pense que Toulouse aurait pu en prendre 2, 3, voire 4 de plus. Il a fait les arrêts, de bons arrêts quand il le fallait. Je pense qu'il n'y a rien à reprocher sur ce match. Le penalty, il est là. Et puis ensuite, la frappe avec la gun line, la barre qui rentre. Je pense qu'il a été irréprochable sur ce match. Et c'était, je pense, le meilleur Toulousain sur le terrain.
Nico?
Moi, j'ai pas de magret, tu vois. J'avais pas de violette non plus. J'avais pas non plus envie d'en mettre sur ce match-là. Je crois que c'est très inquiétant, toute l'équipe là, 20e de Ligue 1, c'est vraiment, Toulouse n'est pas à sa place pour moi, donc j'ai envie de récompenser aucun joueur.
On a un rédacteur des JT Foot qui a décidé de se rebeller. Simon, toi, j'espère que tu m'as mis un magret quand même.
Ouais, ben je vais rejoindre Julien pour pas faire dans l'original. Je pense que voilà, s'il y a pas René, il y a au moins 3 buts de plus. Au moins 3 buts de plus avec les occasions qu'a eu Nantes.
Et il en sort quand même des belles, c'est vrai.
Ouais.
On passe à la violette, j'allais demander à Nico qui l'avait choisi, du coup je pense qu'on va pouvoir passer directement à Simon. C'est qui ta violette?
Alors pour moi, ça va être Dossévi. J'ai trouvé que sa rentrée, alors évidemment, dans le contexte, le contexte qu'on connaît, il n'a pas eu grand chose à faire, mais j'ai trouvé qu'il a été replacé un moment au centre, et je trouvais que c'était pas si inintéressant que ça. Il a réussi à faire quelques différences, bien orienter le jeu, donc voilà, Dossévi.
Julien?
Pareil, j'ai appuyé Simon, parce que j'avais vraiment noté l'entrée de Dossévi. Vraiment, dès qu'il est rentré à la 65e, il a apporté vraiment une animation offensive, que ce soit dès son entrée avec une première frappe dans les secondes qui ont suivi son entrée, et puis jusqu'à la fin du match. Donc pour encourager Dossévi, je lui donne la violette.
On va terminer avec la saucisse, le joueur qui est passé complètement en travers de son match. Nicolas, j'espère que t'as pas mis toute l'équipe. T'as choisi une saucisse en particulier?
Bah allez, on va dire Antoine Camboré pour ce match. Hein. Je vise aucun joueur en particulier parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Donc forcément, là, Antoine Camboré, il n'arrive pas à insuffler une énergie positive ou à changer la mentalité de ses joueurs. C'est ce qu'on demande à un entraîneur quand il arrive. Antoine Camboré.
Simon?
Moi, ça va être pour cette saucisse, je pense que je vais quand même. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais garder Saïd. J'ai longtemps hésité à mettre Rochel, mais Saïd, j'ai trouvé que sur les seuls ballons qu'il a eu, il a vraiment rien fait. C'est pas pour l'accabler, hein, c'est vrai que c'est pas facile non plus dans une équipe qui a si peu d'animation offensive, mais vraiment, chaque ballon qu'il a eu, il l'a perdu sans rien en faire, donc je reste sur lui.
Je crois que t'as spoilé, Julien.
C'est ça. Moi, écoute, j'ai pas hésité. Hein. J'ai vu la performance de Rochel. Je me suis dit, j'ai rarement vu un joueur aussi peu rapide sur le terrain. Vraiment, je pense qu'il va donner de nombreux espoirs aux joueurs de district. Parce qu'il ne court absolument pas vite. Je pense qu'il peut courir un 100 mètres en 6 minutes et passer. Donc, c'est vraiment affolant. Et pareil pour.
Est-ce qu'il est en forme aussi parce qu'il revient de blessure?
Voilà, c'était la clavicule. C'était pas les jambes.
Si tu parles de forme, on va relever sa relance manquée, totalement manquée, en plein axe, qui arrive dans les pieds nantais, qui provoque ensuite un petit peu le pénalty. Je pense que c'est aussi ça, un des deux relances.
Il est revenu contre Marseille, est-ce que c'est pas un peu précipité non plus son retour? ça aussi, bon, ça on sait pas, c'est au staff de décider, hein, mais bon.
Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question, étant donné qu'il y avait un peu urgence sur le poste de défenseur central qui est très dégarni avec les blessures en ce moment.
Ouais, ouais.
Mercredi, en tout cas, c'est de nouveau Ligue 1 et le TFC reçoit Monaco à 19h pour le compte de la 16e journée de championnat. Les Monégasques sont actuellement 14e de Ligue 1 avec un match en moins. Deux soucis pour les violets, ils évolueront sans arrière-droit de métier avec les suspensions d'Amian et de Morera ainsi que la blessure du jeune Semaoun. On saura ce mardi en conférence de presse si Diakité sera suffisamment remis de sa blessure pour jouer la rencontre. Autre problème, les hommes du Rocher arriveront frais et reposés, leur match du dimanche soir contre le PSG ayant été reporté pour cause de mauvais temps. Vous en attendez quoi de ce match, les gars? Vous pensez que le TFC peut aller embêter cette équipe monégasque?
Là, c'est le moment. Hein. Ouais. C'est le moment. Monaco, c'est une équipe, ils sont un peu comme Toulouse. Ils aiment bien relancer des clubs en difficulté. Là, c'est au stadium à domicile. Ils commencent le match en étant 20e. Là, je pense que c'est le moment de montrer que Toulouse a des tripes et qu'il ne mérite vraiment pas sa place de lanterne rouge.
De sortir les crocs.
Voilà, par exemple.
Écoute, moi, ce qui m'inquiète aussi un petit peu, c'est qu'il va avoir le retour de Ben Yedder. Et j'ai bien peur que dans cette situation en lanterne rouge, il faudrait l'appui de toute une ville, des soutiens de nombreux supporters. J'ai peur que les supporters toulousains viennent plus pour le retour de Ben Yedder au stadium que pour soutenir leur équipe.
Après, justement, on rappelle que Ben Yedder, il fait partie de la maison et de la ville rose. Peut-être qu'il sera clément en voyant la difficulté de son ancienne équipe.
Moi, je vais être beaucoup plus fataliste. Hein. Même si j'ai vu quelques trucs un peu mieux sur le dernier match, je pense que... Là, contre Monaco, même si c'est une équipe qui est plutôt irrégulière, là, franchement, je vois vraiment un minimum 4-0.
Oula, carrément, 4-0, là, donc là, c'est l'explosion en vol, c'est la crise interne, Olivier Sadran qui communique, tout ça, là.
Ah, clairement, là, c'est...
Avec la défense de Monaco, tu penses que le TFC sera même pas capable d'en mettre un petit?
Ouais, je sais pas, je pense pas. Mais si un carton rouge,
à savoir aussi que
clairement
comme Monaco a pas joué dimanche, ils seront quand même un peu plus frais, quoi, donc c'est un paramètre qui rentre en compte aussi.
Ok, allez, on passe sans plus attendre à la nouvelle rubrique de JT Foot, le top d'éclat, et on accueille Victor qui a fait le tour des déclats de la planète foot.
Ouais, Corentin, on ne pouvait pas faire cette première de top d'éclat dans JT Foot sans le grand Zlatan Ibrahimovic, hein, qui se place à la 3e position cette semaine, celui qui va forcément devenir la colcluche, hein, de cette rubrique, et y aller de sa punchline hebdomadaire dans la Gazzetta dello Sport cette fois. Alors Zlatan a fait du Zlatan. On y lit « J'aime choisir, pas être choisi. Je suis né entrepreneur et suis devenu footballeur. Je peux jouer à mon niveau actuel jusqu'à 50 ans. » Alors qu'ajouter à tant de modestie, monsieur, ça, je pense qu'on pourrait l'ajouter.
C'est
voilà.
Du Zlatan dans le texte.
Exactement. Ouais. Alors à la deuxième place, on retrouve une interview du Brésilien Ilan, l'ex-attaquant passé notamment par Saint-Etienne et Sochaux.
Je me souviens d'une belle retournée.
Ouais, exactement, ici, je m'en rappelle. Grand attaquant. Hein. Il évoque dans les colonnes de l'équipe son arrivée lunaire en Corse à Ajaccio à l'intersaison 2011. Alors il raconte « Le président Orsoni m'a fait monter dans une BM blindée. On est parti se perdre dans les montagnes corses. Trop dangereux pour lui d'aller déjeuner en ville. Une mamie en tablier nous attendait devant un bivouac. On était quatre et elle nous a fait entrer dans une pièce sans fenêtre avec juste une porte entrouverte et gardée par deux Serbes ferraillés. C'est là que j'ai signé. » Il nous manque, les gars, les clubs de Corse dans l'élite. Hein.
Je sais pas belle ce histoire, en belle anecdote.
Question de point de vue.
Ah, c'est ça. Ouais. Et le top 1 cette semaine, c'est Luis Enrique qui vient de reprendre le poste de sélectionneur de la Rora. Alors, poste qu'il avait quitté... Exactement, pardon. Excusez-moi pour mon accent. Poste qu'il avait quitté, on se rappelle, pour être au plus près de sa fille malade et désormais décédée. L'ancien entraîneur du Barça parle de son prédécesseur Robert Moreno qui assurait l'intérim en sélection. Sans langue de bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit « Être aussi ambitieux vu la situation est déloyal. La vie te permet de voir qui est ton ami ou pas. Sur l'aspect professionnel, je n'ai rien à dire à l'encontre de Robert Moreno. Je pensais n'avoir rien à dire non plus sur la personne qu'il est, mais... » Donc voilà, apparemment Enrique a très mal vécu le fait que Moreno se pose en victime après que son intérim ait pris fin et qu'il ait évoqué son envie de rester au poste pour l'Euro. Enrique a alors décidé de même pas le reprendre dans son staff et il a conclu par une sanglante déclat. Il s'agit ici d'un manque de loyauté et je ne veux pas quelqu'un de la sorte dans mon staff. Il y a une belle ambiance à l'Aurora.
Hein. Ouais, puis Enrique, on se rappelle, hein, qui avait posté un message extrêmement émouvant sur les réseaux sociaux pour annoncer la mort de sa fille.
Ouais, c'était terrible. Et voilà, c'était le top d'éclat de la semaine. Donc on règle nos micros, on tend nos oreilles et on revient avec trois nouvelles pépites dès lundi prochain.
Merci Victor pour ce top pour le moins salé. Allez, vous y êtes maintenant habitués. C'est l'heure de conclure cette émission avec un quiz de prestige préparé par Arnaud. Alors sur quoi tu nous as préparé ce quiz Arnaud, c'est
mais
quoi
le thème? Écoutez, l'actualité l'impose, il y a le Ballon d'Or ce soir, donc on va faire un petit quiz Ballon d'Or, mais bon voilà, les anecdotes, qui en a gagné le plus, les plus grandes séries et tout, je pense que tout le monde connaît, donc on va passer sur des statistiques et des petites séries un peu plus sympathiques et un peu plus compliquées. La première question, on va faire simple, on va dire, quel est le premier joueur non européen à gagner le Ballon d'Or?
Jean Joueur.
Ouais, exact. Il l'a gagné en, t'as la date?
Non, Simon, j'ai pas la date.
95 en fait, il jouait à l'AC Milan et en fait il a profité de la règle. Avant 95, c'était seulement les joueurs européens qui avaient le droit de le gagner. Et la règle a encore changé en 2007. Maintenant, tous les joueurs du globe peuvent le gagner. En 95, c'était encore que les joueurs non européens, enfin tous joueurs mais jouant seulement en Europe.
Bah, et Georges Weah qui est toujours le seul Ballon d'Or africain d'ailleurs.
C'est ça, en plus.
Ah, peut-être cette année à nouveau.
Peut-être, ouais.
On va voir.
Ça m'étonnerait, mais
moyennement.
Ouais.
Deuxième question, donc quel est le plus jeune joueur à avoir été Ballon d'Or dans l'histoire? Le plus jeune.
Le plus jeune, Ronaldo?
Ouais, Ronaldo. Deux points pour Simon. À quel âge?
Trop vite.
Ah, je dirais 21, allez.
21, ouais, c'est ça.
On parle bien du Brésilien?
On parle du Brésilien, parle bien du Brésilien. Et je sais pas, est-ce que vous avez le deuxième par hasard?
Owen,
à 22 ans, exactement.
Très solide.
Question totalement à l'inverse, est-ce que vous avez le nom du plus vieux joueur à avoir gagné le Ballon d'Or? Si vous l'avez réellement, je vous appelle vraiment si vous êtes une bible du foot. Hein,
ah non, alors.
Aucune idée.
Alors là.
Il a gagné à quel âge Cannavaro
Non. Non, c'est pas Cannavaro. Alors c'est un Anglais, il l'a gagné et c'est le premier Ballon d'Or de l'histoire. Alors là.
Ah ok.
C'était pas le gardien de la sélection?
Non, Lev Yashin, je crois.
Il avait 41 ans, il s'appelait Stanley Matthews, en 1956, la victoire.
Ah oui, mais là...
Là, c'était loin.
Tant que les moins de 70 ans ne peuvent pas...
Fallait remonter. Allez, maintenant, on passe aux nations. Donc, les Pays-Bas l'ont fait en 88, mais une autre nation a réussi le même exploit qu'eux, mais ils l'ont fait deux fois. Ils ont réussi à placer trois joueurs sur le podium du Ballon d'Or. Donc, les Pays-Bas l'ont fait une fois, et il y a une autre nation. Quelle autre nation a réussi cet exploit-là?
J'ai envie de dire le Brésil, mais...
Non.
L'Allemagne.
L'Espagne. L'Allemagne. Bon pour Victor. Ils l'ont fait en 72 et en 81. Donc, les trois joueurs allemands sur le podium du Ballon d'Or. Bon, on va poser exactement la même question pour les clubs. On a eu le FC Barcelone en 2010 qui a fait le triplé. Et bien, il y en a un autre, mais qui a fait un pareil, qui l'a fait deux fois. Un autre grand club.
Un club.
Le Real Madrid?
Non.
L'AC Milan.
L'AC Milan. Bon pour Simon, c'est ça, 88-89, ils ont fait le doublé quasiment, ils sont pas emmerdés. Et bon, bah, les petites dernières, mais juste pour voir le niveau, il y a un club qui a réussi l'exploit de placer au moins un joueur sur le podium durant 11 éditions consécutives.
Le Barça.
Ouais. Bon, bah, Simon a survolé les débats. Le Ballon d'Or du quiz ce soir, c'est Simon. On peut lui attribuer
directement. On lui donne le Ballon d'Or.
Ouais. On lui donne le Ballon d'Or.
Je pense qu'on peut effectivement donner le Ballon d'Or et JT Foot à Simon. Allez, c'est fini pour ce quatrième numéro de JT Foot pour la saison 2019-2020. Merci de nous avoir écoutés, merci à tous nos rédacteurs, merci aussi à Adrien qui assure chaque semaine la régie. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur Deezer, Spotify et autres sites de podcast. Allez, à la semaine prochaine avec, on espère, un TFC sorti de la zone rouge. Ciao.